Bonsoir et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris pour ces nouvelles cartes blanches du troisième mardi, puisque nous avons aussi des premiers mardis plus centrés sur l'astrophysique. Et là, nous avons, comme certains d'entre vous le savent, on a deux séquences, en gros, soit celle j'ai donné une invitation à l'Union rationaliste d'autre part et à Jean d'autre et à Jean aussi, pareil, Jean Audouze, ancien directeur de l'Institut d'astrophysique. Bah, d'ailleurs, je suis le directeur actuel de l'Institut d'astrophysique, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, c'est un vrai plaisir de voir cet amphi plein, après les moments Covid, où nous faisions ces séries de conférences dans des amphis vides, ce qui était un peu désespérant, en particulier pour l'orateur. Et donc là, c'est avec grand plaisir que je vois que tu fais ça le comble, et ce qui ne me surprend pas complètement.
Tu devrais essayer de faire payer un peu pour voir.
Oui, j'y pense. Ah oui, c'est vrai qu'avec toi, ça marcherait peut-être quand même.
Peut-être ça permettrait d'améliorer les télescopes, qui sait.
Oui, ou même simplement de payer la facture d'électricité.
Voilà. Hein,
voilà. Bon, après ces divagations, donc on est heureux de t'accueillir. Et puis, je vais laisser à Jean, qui s'est préparé, pour te faire une introduction en bonne et due forme. Voilà, Jean, je te passe le
Merci micro. Bon, ben, bonsoir à tous. Évidemment, bonsoir Alain.
Bonsoir Jean.
Et donc, avant de te présenter, j'indique que le 17 octobre, donc Daniel Kunt, qui est ici, et l'Union rationaliste, invite Bernard Chervet, psychanalyste, ex-président de la Société psychanalyste de Paris, pour nous parler de psychanalyse, science et culture. Et le 21 novembre, j'invite un neurologue, je sais, les hasards. Donc le fondateur de l'Institut du Centre du Cerveau et de la Moelle Épinière, qui parle Yves Agide, qui nous dira faire une découverte, pourquoi et comment. Et maintenant, donc, nous avons le plaisir d'avoir Alain Aspect. Je vais te présenter, mais très vite, parce que tout le monde te connaît. Donc, lauréat du prix Nobel l'an dernier, qui est membre de l'Académie des sciences, et puis professeur dans maint endroit, qui vient du Lot-et-Garonne, et ça c'est important.
La Staffor même, pour ça, ceux
qui connaissent. Oui, voilà. Et donc professeur à Polytechnique, École normale supérieure Paris-Saclay, Institut d'optique Graduate School, peut-être que j'en oublie.
Non, la dernière est la plus importante parce que c'est la maison dans laquelle j'ai fait les expériences qui m'ont valu le Nobel quand même.
Ah,
c'est
voilà,
l'Institut
c'est
d'optique.
Ça, voilà. Voilà. Et donc... Aujourd'hui, tu vas nous parler de la seconde révolution quantique.
Moi, je vais parler des deux.
Voilà, de ce que tu as envie.
Carrément.
Voilà, la première et la seconde.
Voilà, merci.
Et puis, donc, tu as apporté quelques exemplaires de ton récent livre « Einstein et les révolutions quantiques ».
Il n'est pas très récent. Mais je peux dire un mot de quoi il s'agit. J'ai pas besoin de micro, j'en ai un. Il y a quelques années, le CNRS envoyait quelqu'un mettre un micro et puis pendant une heure, on racontait une histoire. Donc j'ai raconté l'histoire de Einstein et les révolutions quantiques. Donc c'est une heure, c'est pas trois minutes comme Jean-François et Anne. Donc j'ai raconté ça, puis ça faisait un audio, je sais pas comment dire, un audio disque, enfin bref, un truc audio quoi. Et puis un jour... Et ils se sont mis en tête de vouloir en faire un livre. Alors, ils ont transcrit. Alors, quand on lit ce qu'on a raconté, c'est abominable, parce que le langage parlé, une fois écrit, n'est pas bon du tout. Donc, on l'a un peu corrigé. Et puis, ce livre a végété, comme ça. Puis, alors, le jour où il y a eu le Nobel, ils ont mis une bande, là. Prix Nobel de physique. Alors, depuis, il y en a des milliers qui ont été vendus. J'ai eu l'immense plaisir d'avoir Madame Nicole Niesoto, que certains d'entre vous connaissent, qui n'est pas du tout scientifique, qui en a fait la pub à l'émission de Philippe Meyer qui s'appelle « Le nouvel esprit public ». Et alors, il s'en vend encore plus. Et donc, souvent, les librairies repèrent que je fais une conférence et viennent en vendre. Mais là, ils n'ont pas eu l'idée. Jean m'a dit « Si tu en as quelques-uns chez toi, amène-les ». Alors, j'en ai quand même quelques-uns, 5 ou 6, que j'ai payés avec une toute petite fraction du prix Nobel. Mais si quelqu'un veut, je peux en céder, comme on dit chez moi, en céder 5 ou 6 de ce que j'ai trouvé chez moi. Si vous trouvez 8 euros, vous laissez 8 euros, sinon vous partez sans payer. Si vous trouvez 10 euros, vous laissez 10 euros. Je n'ai pas la monnaie à rendre. Et puis, vous partez. Sinon, vous partez sans payer. Et puis, voilà. Bon, je vais m'asseoir parce qu'il paraît qu'il y a des internautes. Quand on a des internautes, il ne faut pas pointer sur l'écran. Et je vais donc pointer normal. Est-ce que vous voyez le truc rouge qui se balade?
Oui.
Bon, c'est parfait. Alors, on va faire comme ça. D'habitude, je préfère être debout et bouger, mais on va s'adapter aux circonstances. Donc, en fait, ce petit livre qui nous parle d'Einstein et des révolutions quantiques, en fait, il parle des deux révolutions quantiques, et c'est donc de ça que je vais vous parler. Donc, en fait, ces révolutions, chacune d'entre elles part d'un concept extraordinaire. La première révolution quantique part du concept de dualité onde-particule, qui est introduit pour la première fois par Einstein en 1905, précisé en 1909. Et en ce qui concerne la matière, eh bien, c'est Louis de Broglie, en 1923, qui se pose la question: est-ce que cette dualité qui a été introduite par Einstein, on ne pourrait pas l'étendre à la matière? Donc ça va nous... Est-ce que vous voyez le truc qui est en haut à droite? Non, vous ne voyez pas, parce que ça m'envoie des messages. Là. Alors, j'ai pas besoin que vous voyez mon courrier privé, quand même. Je vais vous parler de ça dans la première partie, ça ne sera pas le plus long. Et ensuite, je vais vous parler de la deuxième révolution quantique, qui est basée sur l'intrication quantique. L'intrication quantique a été découverte, ses propriétés extraordinaires ont été découvertes par le trio Einstein, Podolsky et Rosen en 1935. Schrödinger a immédiatement repéré que c'était un truc extraordinaire. Il a écrit un petit article pour dire que c'était vraiment plus extraordinaire qu'extraordinaire. Et il a fallu une trentaine d'années pour que John Stuart Bell imagine la possibilité de tester ses propriétés extraordinaires. Et ensuite, eh bien, il y a eu des expériences, et c'est là que j'interviens, et on nous a donné un prix Nobel pour ces expériences. Alors, donc, je vais d'abord parler de la première révolution quantique, d'abord, dont je considère que c'est un public de béotiens. Il y a déjà un monsieur qui s'en va parce qu'il trouve que c'est trop simple ce que je vais raconter. Donc, voilà. C'est un public de béotiens. Donc, ceux qui sont un peu experts, ne m'en veuillent pas. On m'a dit que c'était une conférence grand public. Donc, je vais vous parler de la quantification, ce mot quantification, mécanique quantique, pourquoi. Je vous parlerai de la dualité onde particules, qui est le concept essentiel pour la première révolution quantique. Et je vous parlerai des applications qui font que c'est véritablement une révolution. Ça me permettra de définir une révolution. Donc, le XXe siècle commence avec la quantification de la lumière. La quantification de la lumière, elle est entrevue, on va dire, par Planck en 1900, qui, pour rendre compte des propriétés du rayonnement thermique, ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir, c'est le rayonnement qui est émis quand vous chauffez un bout de métal ou par une bûche qui est dans un feu, les théoriciens ont compris qu'être capable de rendre compte de ce rayonnement, c'est vraiment quelque chose qui touche à la théorie la plus fondamentale de la physique. Donc, ils s'acharnent tous à arriver à décrire ce qui, par ailleurs, est mesuré par des expérimentateurs tout à fait remarquables compte tenu des moyens techniques de l'époque, et ils n'y arrivent pas. Et Planck, finalement, y arrive en faisant une hypothèse à son corps défendant. Cette hypothèse, c'est que les échanges d'énergie entre matière et rayonnement se font par paquets et non pas par quantité aussi petite que l'on veut. Et il faut même donner une valeur précise à ce paquet pour que ça marche, c'est-à-dire pour que la théorie rende compte de l'expérience. Et puis, comme le dit un excellent livre sur le sujet, à partir de là, la plupart des physiciens n'arrivent pas à avaler cette hypothèse, et comme ils disent dans le livre, c'est comme un secret de famille dont tout le monde se met d'accord pour ne pas en parler. Donc plus personne parle de cette histoire. Donc quand on nous dit que Planck sonne la révolution quantique en 1900, pas du tout. Il y a d'ailleurs une légende, alors celle-là je ne l'ai pas vérifiée, qui dit que s'il a appelé H sa constante, c'est à cause du mot allemand Hilf, c'est-à-dire c'est en désespoir de cause, au secours, qu'il a inventé cette histoire-là. Et puis il y en a un qui arrive là, un jeune Blanbec, là, qui est employé au bureau des brevets, Einstein, qui lui, il prend ça tout à fait au sérieux. Il dit, moi, je fais l'hypothèse que la lumière elle-même est constituée de grains d'énergie. Ce n'est pas seulement les échanges qui se font par paquets. C'est la lumière elle-même est constituée de grains d'énergie, qu'on appellera photon plus tard, c'est pas lui qui donne le nom photon. Et donc, cette énergie, elle est formée, ces particules, c'est des particules qui vont à la vitesse de la lumière. En 1905, c'est la même année où Einstein invente la théorie de la relativité. Et des particules qui vont à la vitesse de la lumière, c'est possible à condition qu'elles aient une masse nulle, mais elles ont quand même une énergie. Et en plus, elles ont ce qu'on appelle une quantité de mouvement, c'est-à-dire que si elle entre en collision avec un atome, par exemple, l'atome va reculer. Donc la quantité de mouvement, c'est le fait que si vous tapez sur quelque chose, ça recule. Donc il fait cette hypothèse. Il en déduit que l'effet photoélectrique, qui est un truc un peu bizarre, dans lequel il y a des électrons arrachés de la matière par la lumière, il en déduit des lois pour l'effet photoélectrique. Et personne n'y croit. Il faudra attendre 1915 pour que le grand physicien américain Millikan entreprenne des expériences. C'est ce qu'il dit dans ses mémoires. Pour démontrer qu'Einstein a tort, seulement Millikan est un bon expérimentateur. Il trouve qu'Einstein a raison. Il vérifie deux fois ses expériences. Il publie. Et finalement, le jury Nobel, en 1921, donnera le prix Nobel à Einstein pour l'effet photoélectrique. Mais, bien entendu, Einstein, bien qu'il ait dit que la lumière était formée de particules, il sait qu'il y a eu tous ces travaux du 19e siècle, avec en particulier deux génies que j'admire sans réserve, qui s'appellent Thomas Young, de l'autre côté du Channel, et Augustin Fresnel, de ce côté-ci, qui ont démontré que la lumière est une onde. À leur époque, on ne savait pas quelle était l'onde, mais finalement, après les travaux de Maxwell, donc vers 1865, on réalise que la lumière est une onde électromagnétique. Et Einstein, évidemment, il sait ça. Et donc, il ne peut pas ne pas se poser la question, mais d'accord, d'un certain point de vue, ce sont des particules, mais c'est quand même une onde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, il invente la notion de dualité onde-particule. La lumière doit être considérée à la fois comme une onde et comme formée de particules, les photons, et on va se débrouiller avec ça. Bon. Si vous voulez savoir comment se débrouiller avec ça, il faut venir suivre mon cours d'optique quantique à l'école polytechnique. Alors, il y a des MOOC aussi, mais enfin, c'est des MOOC sérieux, hein, avec plein d'équations et de trucs comme ça. Bon, passons à la quantification de la matière. Donc, certaines quantités ne peuvent prendre que des valeurs particulières, ce qu'on appelle des valeurs discrètes. Par exemple, l'énergie d'un électron qui tourne autour du noyau. Au début du XXe siècle, Rutherford démontre de façon indubitable qu'un atome s'est formé d'un noyau positif qui attire des électrons qui sont des charges négatives. Ces électrons se baladent autour. L'essentiel de l'atome est vide parce que les particules alpha passent à travers le machin. De temps en temps, elles butent sur le noyau, mais pas souvent. Donc on sait qu'il y a des électrons qui tournent autour et on se dit, tiens, c'est comme un satellite qui tourne autour de la Terre. D'ailleurs, ou bien une planète qui tourne autour du Soleil. Et l'analogie est vraiment excellente parce que la loi de la gravitation est une loi en 1 sur R2, inverse du carré de la distance. Or, la force de Coulomb qui lie l'électron au noyau, c'est aussi une loi en 1 sur R2, dont on se dit analogie excellente. Sauf que on est obligé de, et ça c'est Niels Bohr, qui dit que pour arriver à rendre compte de tout ce qu'on observe sur les atomes, et en particulier quelles sont les longueurs d'onde qui sont émises par les atomes, il faut admettre que seules certaines orbites bien précises sont autorisées. C'est ça qu'on appelle la quantification. Donc on a des spectres atomiques discrets, et pour comprendre cette quantification, eh bien c'est là qu'on sort de sa poche la dualité onde-particule. Alors c'est anachronique ce que je dis, parce que De Broglie n'a découvert le concept ou n'a proposé le concept qu'en 1923, tandis que Bohr fait la quantification en 1913. Mais a posteriori, on se rend compte que cette quantification que Bohr a un peu imposée comme ça au doigt mouillé, on peut l'imposer grâce à la quantification du mouvement de l'électron voyez, si vous avez un électron qui tourne là, sur sa trajectoire, et si vous vous dites, ah oui, mais c'est non seulement une particule, mais c'est aussi une onde, l'onde, il faut qu'elle se referme comme il faut sur elle. Parce que si elle ne se referme pas comme il faut sur elle, ça va être à la pagaille. Il faut donc que la trajectoire soit égale à un nombre entier de longueurs d'onde. C'est comme une corde de guitare ou un tuyau d'orgue, etc. Vous avez un nombre entier de longueurs d'onde, ou de demi-longueurs d'onde, c'est pas important, qui correspond à la vibration que vous avez là-dedans. Et donc cette dualité en deux particules pour l'électron permet de comprendre ce qui avait mis en défaut les physiciens jusqu'à ce que Bohr arrive, qui est comprendre les spectres atomiques. Donc cette dualité onde-particule, les électrons qui sont des particules sont aussi décrits par une onde, et donc, c'est ce qui était écrit là, l'orbite atomique doit comporter un nombre entier de longueurs d'onde, c'est une condition très restrictive. Alors, encore deux mots sur cette dualité onde-particule. Alors, vous avez les deux héros, je trouve, j'adore ces photos parce qu'ils ont l'air parfaitement réjouis. Donc, vous voyez que la physique quantique, c'est vraiment rigolo. Je trouve que De Broglie, même ici, que d'habitude on présente très empesé, etc., je trouve qu'il a un vague air de Groucho Marx, non, vous ne trouvez pas? Bon, bref, et Schrödinger a l'air particulièrement heureux lui aussi. Donc, ce qu'ils disent tous les deux, De Broglie le dit un peu comme ça, et Schrödinger va écrire carrément l'équation, c'est qu'une particule doit aussi être associée à une onde, et le fait qu'on associe une onde à cette particule va nous permettre de comprendre un tas de propriétés qu'on ne comprenait pas jusque-là. Donc, concept, la dualité onde-particule, ce concept va nous permettre de faire une révolution, donc révolution conceptuelle, va nous permettre de provoquer une révolution scientifique, parce que ça nous permet de comprendre la structure de la matière, sa stabilité. Pourquoi sa stabilité ? Eh bien, à la fin du 19e siècle, j'ai combien de temps là ? Parce que je trouve que je m'étale un peu. J'ai une heure, ça va. À la fin du 19e siècle, on sait que la matière est formée de charges positives et négatives. Et on sait que les charges positives et négatives s'attirent. Et donc se pose la question, pourquoi la matière ne s'effondre-t-elle pas sur elle-même ? Eh bien, vous ne pouvez pas répondre correctement à cette question tant que vous n'avez pas la physique quantique. En deux mots, je vous le fais, si vous associez une longueur d'onde, une onde, à l'électron, si vous cherchez à rapprocher le plus possible l'électron du noyau, ça veut dire que vous le confinez dans une dimension de plus en plus petite. Il faut donc le décrire avec une onde dont la longueur d'onde est de plus en plus courte. Et une onde dont la longueur d'onde est très courte, ça correspond à une énergie énorme. Et cette énergie, elle n'est pas disponible. Donc l'électron, il arrête de se rapprocher du noyau. Ou les charges positives et négatives arrêtent de se rapprocher l'une de l'autre, parce que pour les rapprocher, il faudrait fournir une énergie énorme. Alors si vous trouvez que ce que je raconte est bizarre, pensez au CERN. Qu'est-ce qu'on fait au CERN ? On donne énormément d'énergie aux particules pour qu'elles aillent sonder la matière à des échelles toutes petites. Pour se rapprocher infiniment des autres particules, il faut fournir beaucoup d'énergie. C'est ça qui stabilise la matière. Donc, on comprend la structure de la matière, on va comprendre la liaison chimique, la structure des cristaux, et puis on va comprendre, moi qui suis opticien, ça m'intéresse beaucoup, les interactions avec la lumière, comment la matière émet ou absorbe des photons. Donc, on va comprendre les propriétés mécaniques, électriques, optiques, etc. Et donc, révolution scientifique est extraordinaire. Hein, d'un seul coup, on comprend plein de choses qui résistaient à la compréhension fondamentale des physiciens. Et puis, on va même comprendre des propriétés que j'appelle exotiques, qu'on découvre petit à petit, la superfluidité, le fait que l'hélium en dessous de 4 Kelvin, donc à 4 degrés du zéro absolu, il se met à couler comme s'il avait absolument zéro viscosité. C'est ce qu'on appelle la superfluidité, la supraconductivité, le fait que certains métaux portaient une température suffisamment basse, proche du zéro absolu, là aussi, se mettent à conduire le courant avec une résistance électrique nulle. C'est tout à fait étonnant, et ce n'est que la mécanique quantique qui permet de comprendre ça. Et puis, quelques décennies plus tard, j'insiste sur les décennies. C'est pour que les gens qui financent la science, les gens qui nous écoutent, sachent qu'il s'écoule toujours des décennies entre les découvertes et les applications de masse. On va avoir une révolution technologique basée sur la dualité onde-particule qui va avoir des applications sur des produits de masse. On va inventer le laser en 1947, dont vous vous rappelez, hein, les premières idées de mécanique quantique début du siècle. 1925, l'équation de Schrödinger, 1930, Dirac, on commence vraiment à comprendre à fond la théorie. 1947, le premier transistor. Ensuite, les circuits intégrés, il faut bien au moins 10 ans ou 15 ans, parce que les circuits intégrés, c'est beaucoup de transistors sur une même puce. Hein. C'est à la base des ordinateurs. Donc voilà, et puis par ailleurs, en 1960, on invente le laser, et sans laser, vous n'avez pas d'autoroute de l'information avec des fibres optiques. Vous ne pouvez pas faire passer la lumière ordinaire dans les fibres optiques, il faut vraiment avoir des lasers pour envoyer l'information dans les fibres optiques. Donc, on invente de nouveaux composants, ce qui nous donne la société de l'information et de la communication, dont on peut, je crois honnêtement, dire que c'est une révolution sociétale aussi importante que celle qui a été due à la machine à vapeur au XIXe siècle. Donc, je reprends les trois adjectifs. La révolution, elle est d'abord conceptuelle, puis scientifique, puis technologique, et on se posera la question, est-ce qu'on peut appliquer les mêmes qualificatifs à la deuxième révolution quantique ? Donc, attaquons la deuxième révolution quantique. Donc, la deuxième révolution quantique, elle est d'abord basée sur l'intrication. Alors, qu'est-ce que c'est l'intrication ? Je vous décris ici très rapidement une expérience. Il y a une source qui émet deux photons. Un photon part vers la gauche, un photon part vers la droite. J'ai fait des couleurs différentes pour que les gens ne pensent pas que l'indiscernabilité joue un quelconque rôle ici. Parfois, ça joue un rôle, mais pas ici. Sur ces photons, on va faire une mesure de polarisation. Alors, qu'est-ce que c'est la mesure de polarisation ? La lumière, si vous avez un faisceau de lumière, il peut être polarisé, c'est-à-dire que la lumière, c'est une onde électromagnétique. Il y a un champ électromagnétique qui vibre, un champ électrique qui vibre perpendiculairement à les dimensions de propagation. J'espère qu'on voit mes mains sur la caméra, parce que sinon, là, je suis mort. Donc, la lumière se propage, il y a un champ électrique qui vibre perpendiculairement à la direction de propagation. La polarisation, c'est la direction de vibration du champ. Alors, cette polarisation, comment on fait pour la mesurer ? On l'envoie sur un polariseur. Alors, le polariseur, c'est un truc qui a un axe privilégié. Alors, on va dire, c'est l'axe privilégié. Alors, si la lumière qui arrive est polarisée suivant cette direction, tac, elle sort dans une des deux voies du polariseur qu'il a. Il n'a que deux voies de sortie, le polariseur qu'il a. Si elle est polarisée comme ça, il sort vers le haut. Si elle est polarisée perpendiculairement, il sort vers le bas. Et si elle est polarisée entre les deux, ben une partie du faisceau sort vers le haut, une partie sort vers le bas, et comme ça, on peut mesurer la polarisation de la lumière. Alors, si vous envoyez un photon et un seul, là, on commence à toucher aux particularités de la physique quantique. Parce que quand le photon arrive, s'il est polarisé comme ça, il sort vers le haut. S'il est polarisé comme ça, il sort vers le bas. Mais si elle est une polarisation qui est entre les deux, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne se coupe pas en deux. Il n'y a pas la moitié du photon qui sort en haut et la moitié qui sort en bas. Il va sortir en haut ou en bas. Et la probabilité qu'il sorte en haut ou en bas se calcule avec la mécanique quantique. Donc, on commence à toucher au cœur de la mécanique quantique. Donc, on a ici un polariseur dont la direction d'analyse est repérée par un petit vecteur unitaire que j'appelle A, dont je peux faire tourner le polariseur, comme ça. J'ai un deuxième polariseur de l'autre côté qui va me mesurer la polarisation du photon nu2. Ça peut tourner comme ça, petit b tourne comme ça. Et donc, quand mon photon arrive, eh bien, soit j'ai le résultat plus 1, soit j'ai le résultat moins 1. Quand l'autre photon arrive, soit j'ai le résultat plus 1, soit j'ai le résultat moins 1. Et je vais m'intéresser aux diverses probabilités. Alors, probabilité pour une paire qui a certaines caractéristiques. L'intrication, la voilà. Alors, ceux qui savent lire les équations vont apprécier. Et ceux qui savent pas lire vont également apprécier, parce qu'on utilise ici la notation de Dirac, qui était un génie absolu, et qui non seulement faisait des calculs très difficiles, mais inventait des notations très simples pour que les gens à l'esprit simple, comme moi, puissent comprendre de quoi il parle. Alors, ici, XX, ça me décrit une paire de photons qui sont tous les deux polarisés suivant X, comme ça, vous voyez, l'axe X est là. Donc, XX me décrit une paire de photons qui sont tous les deux polarisés comme ça. Rien d'étonnant, s'ils arrivent sur les deux polariseurs, paf, paf, ils vont sortir dans plusieurs. YY, ça me décrit une paire de photons qui sont polarisés comme ça. Donc, ils arrivent sur les deux polariseurs, paf, ils sortent vers le bas. Rien d'étonnant. Ce qui est étonnant, et que Einstein, Podolsky et Rosen découvrent en 1935, c'est que le formalisme quantique permet d'écrire cet état-là. Cet état-là est un état valide. Et cet état, je ne peux plus vous dire le premier photon est comme ça et le deuxième est comme ça, parce que il est la paire est à la fois comme ceci et comme cela. Et ne croyez pas que c'est comme ça, parce que si c'était comme ça, on écrirait un photon polarisé comme ça et un photon polarisé comme ça. Ce n'est pas ce qu'on écrit. On écrit superposition de ceci et de cela. C'est aussi étonnant que le chat de Schrödinger, qui est vivant et mort. Sauf que dans le chat de Schrödinger, il y a plus de deux particules. Ça, c'est une petite complication, quand même. Mais conceptuellement, c'est aussi étonnant. Donc, vous avez cet état découvert par Einstein, Podolsky et Rosen. Et cet état est vraiment extraordinaire, et vous allez voir pourquoi. Parce que, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir mesurer les probabilités de trouver plus 1, de trouver moins 1. Et le calcul quantique sur cet état-là n'est pas très compliqué, il n'est pas très simple non plus. Il faut avoir 3 ou 4 années d'études universitaires pour pouvoir le faire. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont ça aujourd'hui. Et donc, vous commencez par calculer sur cet état-là les probabilités simples et vous trouvez qu'elles valent tout un demi. Donc, 50% de chances de sortir ici, 50% de chances de sortir là. Comme un jeu de pile ou face, vous lancez une pièce, pile ou face, 50%. Et pareil de l'autre côté. Donc, de chaque côté, ça a l'air parfaitement aléatoire. Mais vous pouvez aussi calculer, avec la physique quantique, la probabilité de sortir ici et de sortir là, pour la même paire. Vous avez une paire, vous dites, quelle est la probabilité que les deux photons sortent en haut? Quelle est la probabilité que les deux photons sortent en bas? Quelle est la probabilité qu'il y en ait un en haut et un en bas? Vous faites le calcul, et là, vous trouvez des résultats tout à fait étonnants. C'est que si vous trouvez plus un d'un côté, alors à tout coup, vous trouvez plus un de l'autre. Si les deux polariseurs sont suivants la même direction. Hein. Si vous trouvez plus un d'un côté, à tous les coups, vous trouvez plus un de l'autre. Et si vous trouvez moins un d'un côté, à tous les coups, vous trouvez moins un de l'autre. Alors, si vous avez deux types qui jouent à pile ou face ici, il y en a un qui est ici, pile ou face, ça a l'air aléatoire. L'autre qui est là, pile ou face, ça a l'air aléatoire. Mais vous regardez de près et vous apercevez que quand l'un trouve plus un, l'autre plus un, quand l'autre trouve face, l'autre trouve face, vous vous dites, il y a un truc. C'est un jeu de pile ou face truqué. Truqué par quoi ? Ben, truqué par la mécanique quantique. Donc, on va essayer de comprendre quel est le truc de la mécanique quantique. Alors, la première idée, qui est apparemment bonne, qui est une idée naturelle, c'est de se dire, attends, j'ai fait des calculs pour trouver ça, et pour trouver ça, je ne vous ai pas donné l'expression parce qu'elle est compliquée et les gens qui n'ont pas l'habitude des équations, ça les perd, là, ici. Donc, je n'ai pas donné l'expression. Donc, le résultat du calcul, il est sorti de quelque part. On a fait un calcul. Donc, regardons dans le calcul. C'est dans le calcul qu'on va voir le truc. Alors, on essaye de trouver une image. Parce que trouver le truc, c'est une image. C'est comprendre. J'ai les deux gars qui jouent à pile ou face. Ben, il y a peut-être un fil sous la table qui leur permet de communiquer, aller savoir. Moi, j'en sais rien. Donc, on va chercher une image qui me permet de comprendre que le résultat ici et le résultat là sont les mêmes. Alors, si vous faites le calcul direct, c'est le calcul qui est recommandé pour les étudiants quand je leur donne un problème sur les inégalités de Bell. L'an dernier, c'est quand même bizarre. J'ai eu le prix Nobel en octobre. En décembre, j'ai donné aux élèves de Polytechnique un examen sur les inégalités de Bell. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont eu des notes meilleures que d'habitude. Ils s'étaient dit, tiens, le père Aspect, il va nous donner un devoir sur les inégalités de Bell. Ils sont malins, les polytechniciens. Bon, bref. Le calcul, la méthode efficace donc pour les polytechniciens, qui permet d'avoir rapidement le résultat, on ne peut rien tirer comme image, parce que ce calcul se passe dans un espace abstrait, qu'on appelle un espace de Hilbert, qui est un espace dans lequel on décrit les deux particules à la fois, et il n'y a pas moyen de tirer une image de ça. La raison, c'est que dans ce calcul, on n'identifie pas des propriétés individuelles sur chaque photon, et comme à la fin, la mesure, elle va se faire quand même d'un côté et de l'autre, si vous n'arrivez pas à parler séparément du premier photon et du deuxième, vous êtes coincé pour faire une image. Bon. Donc, vous dites, c'est comme ça. Ouais. Mais il y a un théoricien, j'aime beaucoup cette citation parce que ce théoricien, c'est un orthodoxe, mécanique quantique, interprétation de Copenhague, tout ce qu'il y a de plus orthodoxe, il écrit quand même sur la page de garde de son livre « Les phénomènes quantiques ne se passent pas dans des espaces de Hilbert, ils se passent dans un laboratoire ». Alors j'adore quand un théoricien, tout ce qu'il y a de plus orthodoxe, écrit ça, parce que moi, c'est ce que je veux. Je veux faire une image dans mon espace réel, parce que moi, j'ai des appareils. J'ai un polariseur là-bas, un polariseur ici, et je veux une image qui me permette de comprendre qu'est-ce qui se passe entre ces deux photons. Cette image, je vous la donnerai plus tard, parce qu'elle est bizarre, et pour l'instant, on va avancer. On va avancer en se référant à la conclusion d'Einstein, Podolsky et Rosen dans leur article. Einstein, Podolsky et Rosen disent « Écoutez, il faut être raisonnable. Si deux particules qui ont interagi ensemble, puis qui se sont quittées, qui n'interagissent plus, ont des propriétés fortement corrélées, c'est que ces deux particules, dès le départ, avaient une propriété en commun. Par exemple, si je reprends les polarisations, peut-être qu'il y avait deux photons qui étaient émis tous les deux avec une paire comme ça. Alors on a trouvé plus un plus un. Peut-être que la paire suivante, ils étaient tous les deux émis avec une polarisation comme ça. Alors on a trouvé moins un, moins un. Donc Einstein dit, il faut compléter la mécanique quantique en introduisant des paramètres qui n'existent pas dans le formalisme de la mécanique quantique et qui disent que dès le départ, les photons ont une propriété qui va déterminer le résultat des mesures. Alors cette image, elle est simple et convaincante. Nos amis biologistes, s'ils acceptent de ne pas m'envoyer tout de suite les histoires d'épigénétique, donc on oublie l'épigénétique, on ne parle que de génétique, les amis biologistes vont nous dire que, évidemment, quand vous prenez deux jumeaux vrais et vous observez des propriétés identiques, fortement corrélées sur les deux jumeaux vrais, l'interprétation est évidente. C'est qu'ils ont les mêmes chromosomes, les jumeaux vrais. Eh bien, c'est ce qu'on conclut en suivant le raisonnement d'Einstein, il ne parle pas de chromosomes, Einstein, Podolsky et Rosen, mais c'est ce qu'on conclut en suivant le raisonnement pour comprendre ces corrélations à distance extraordinaires. Eh bien, on admet que les particules, au départ, partagent une propriété que Bell va appeler lambda et que c'est cette propriété qui détermine le résultat de mesure ici et là. Bohr n'est absolument pas d'accord parce que introduire cette propriété, ça revient à compléter le formalisme de la mécanique quantique. Dans la mécanique quantique, je vais revenir en arrière un coup, dans la mécanique quantique, toutes les paires sont décrites par le même état quantique qui est celui-là. Il n'y a pas de lambda là-dedans. Donc il faut rajouter, si on croit Einstein et compagnie, il faut rajouter à ça un paramètre supplémentaire lambda. Et Bohr, il dit non, 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 pas du tout. La mécanique quantique n'est cohérente, n'est self-consistante, comme on dit en français, que si on admet qu'elle est complète. Si vous commencez à introduire des trucs en plus, ça ne va pas marcher. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ce débat entre nos deux géants? N'oubliez pas que ce sont quand même les deux géants de la physique du début du XXe siècle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on ne peut que s'étonner que ce débat intense entre Bohr et Einstein n'a absolument pas attiré l'attention des physiciens. Alors pourquoi? Alors d'abord parce qu'ils sont un peu vieux et que les jeunes ne s'occupent pas des vieux, même quand ce sont des vieilles gloires. Mais il y a quand même quelques raisons un peu plus valables. La première raison, c'est que la mécanique quantique accumule les succès. Tous les jours, on découvre des phénomènes extraordinaires et pour les interpréter, il faut utiliser la mécanique quantique. Donc la mécanique quantique marche bien, elle permet de comprendre des propriétés extraordinaires. On ne va pas se prendre à la tête sur un débat épistémologique entre Bohr et Einstein. Pourquoi? Parce que c'est un débat sur l'interprétation. Einstein est absolument d'accord avec les calculs. Il dit juste « ce calcul donne des résultats probabilistes » et moi je crois que ça c'est le signe qu'en dessous il y a une théorie plus complète et c'est ça qui nous permet de comprendre que c'est probabiliste. Et il pense qu'avec son raisonnement sur les particules corrélées, eh bien il a démontré la nécessité de compléter. Et ce que je viens de vous dire, c'est la deuxième bonne raison pour laquelle les physiciens ne s'intéressent pas trop au débat. Ils ont l'impression que c'est un débat purement philosophique, puisque Einstein ne remet pas en cause la façon de faire les calculs. Il ne remet en cause que l'interprétation, que les images, si vous voulez. Donc c'est un débat philosophique, épistémologique. Donc les jeunes physiciens, ils se disent, quand je serai à la retraite, j'aurai le temps de réfléchir au débat entre Einstein, Podolsky et Rosen, et ils avancent. Donc on est... Einstein, Podolsky et Rosen, c'est 1935. Le débat entre Bohr et Einstein dure jusqu'à 1955. Il est parfaitement traduit dans un livre qui a été publié peu avant la mort d'Einstein qui s'appelle Albert Einstein, Philosopher Scientist, dans lequel Bohr résume sa position, Einstein résume sa position. Il n'y a aucun accord entre les deux. Chacun reste sur sa position. Et quand on lit les deux, on trouve que chacun a des arguments tout à fait intéressants et on ne voit pas pourquoi trancher en faveur plutôt que l'autre en lisant leurs arguments. Bon. Donc, 35, 55, Einstein meurt, donc fin du débat, Bohr va mourir quelques années après, et puis, 1964, donc 10 ans après la mort d'Einstein, John Bell arrive, et il démontre, alors je ne vais pas le faire là, hein. Vous avez plein de vidéos où je le démontre, donc ça me permet de gagner du temps pour vous raconter tranquillement un certain nombre de choses que je suis heureux de partager avec vous aujourd'hui. Donc, je ne vais pas vous démontrer le théorème de Bell. Le théorème de Bell, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si je prends au sérieux l'idée d'Einstein, Podolsky et Rosen, que je complète la mécanique quantique avec des lambdas, ces fameux lambdas dont je vous ai parlé, et donc les lambdas vont avancer et puis ils vont déterminer le résultat de la mesure. Donc, le photon arrive avec son lambda, il arrive là, paf, il y a une fonction qui dépend de lambda, qui dépend de l'orientation du polariseur, qui dit j'ai plus 1 ou j'ai moins 1. Même chose de l'autre côté. Alors, ce que John Bell impose à sa théorie, c'est d'être local. C'est-à-dire que ce qui va se passer à droite, là, à ce polariseur, quand le photon arrive avec son lambda, le résultat plus 1 ou moins 1 ne dépend que de l'orientation du polariseur et de ce lambda-là. Ça ne dépend pas de l'orientation de l'autre polariseur qui est là-bas. Ça a l'air naturel. Mais attention, on parle de physique fondamentale. Comment vous savez qu'il n'y a pas éventuellement une interaction entre les deux bouts? Donc Bell dit, pourrait bien y avoir, je fais l'hypothèse raisonnable qu'il n'y en a pas. Et on verra plus tard. Bon. Donc, muni de cette hypothèse, il démontre que les corrélations peuvent certes être fortes, mais elles ne peuvent pas dépasser un certain degré. Or, la prévision quantique, celle dont je vous ai donné l'expression tout à l'heure, là, au passage, la prévision quantique dit qu'il y a certains angles pour lesquels ça va être encore plus fort que ce qui est autorisé par l'image avec les lambdas. Et donc, vous voyez qu'on a maintenant un désaccord quantitatif entre le point de vue d'Einstein et certaines prédictions quantiques, celles pour certains angles pour lesquels ça ne marche pas. Et donc, ce qui était un débat épistémologique, un débat philosophique, devient une question physique. On peut faire l'expérience et regarder le résultat. Ou bien ce n'est pas plus grand que la limite de Bell, et dans ce cas-là, il faut effectivement compléter la mécanique quantique dans ces situations très rares. Pour toutes les autres situations qu'on connaît, on garde la mécanique quantique. Mais pour cette situation-là, il va falloir la compléter. Ou bien alors, la mécanique quantique continue à avoir raison, et il faut abandonner l'idée d'Einstein qu'il fallait compléter la mécanique quantique. Donc voilà le débat. Et voilà le théorème de Bell. J'aime beaucoup cette photo, c'est pas moi qui l'ai communiquée à la presse, mais figurez-vous que cette photo, j'ai eu la surprise agréable de la découvrir parce que sur le tableau, il y a le schéma de mon expérience. C'est vraiment le schéma de mon expérience. Donc quand ils ont publié ça, j'étais vraiment content. Bon, voilà. Donc, à la suite du théorème de Bell, mais les expérimentateurs se sont mis au boulot, donc il a fallu quelques années, le théorème de Bell, c'est 65, et il y a eu les pionniers héroïques entre 72 et 76. Le premier, ça a été John Clauser, donc l'un des lauréats du prix Nobel 2022, qui fait... Alors, il travaille à Berkeley, il trouve une expérience en accord avec la mécanique quantique, et donc il viole les inégalités de Bell. Mais à Harvard, autre quand même université un petit peu sérieuse, normalement, même plus sérieuse que Berkeley. Berkeley, c'est des révolutionnaires. À Harvard, ils ne sont pas trop révolutionnaires. Bon, bref, à Harvard, dans le groupe de Pipkin, qui est un professeur tout à fait sérieux, ils font la manip et eux, ils trouvent en accord avec les inégalités de Bell et pas la mécanique quantique. Alors on est en 72, là, vous voyez, c'est intéressant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors je fais mon petit couplet sur la méthode scientifique. Quand il y a des choses surprenantes, première chose, on publie les résultats avec un maximum de détails, comme ça les collègues peuvent regarder, ils disent « Non, mais là, vous exagérez, vous n'avez pas bien fait votre truc, etc. » Et puis, si après cet examen soigneux, éventuellement, vous allez visiter le labo, vous dites « Montre-moi là, ta manip, qui est quand même bizarre ton résultat. » Bon, c'est comme ça qu'on a découvert que les neutrinos qui allaient plus vite que la lumière n'allaient pas plus vite que la lumière. Il y avait un câble mal connecté quelque part. Bon, c'est les choses qui arrivent. Mais vous voyez, c'est ça la méthode scientifique. Vous publiez, les gars, ils lisent votre article, ils viennent voir, ils fouinent partout. Bon, là, on fouine partout, on ne trouve rien de particulier. Donc, deuxième étape, à ce moment-là, quand vous avez un résultat vraiment étonnant, eh bien, il y a des gens qui se disent « ça, c'est rudement étonnant », et ils remontent la manip dans leur labo. Mais la manip n'est jamais exactement la même, mais c'est quand même suivant le même principe. Donc, si une manip suivant le même principe, remontée dans un labo différent, avec un peu une variante, donne le même résultat, ça dit ce résultat qui nous étonnait beaucoup, il doit être vrai. Alors là, le premier à remonter la manip, c'est Clauser. Clauser, il prend le même schéma, parce que Pipkin n'utilisait pas le même atome que Clauser, il y avait des différences. Donc Clauser, il prend le même schéma que Pipkin, il fait la manip et il trouve la mécanique quantique. Personne ne sait ce qu'il n'y avait pas... Donc, et puis après, il y a un troisième larron qui s'appelle Fry, qui habite au Texas, dans Texas Agriculture and Mining University. Vous voyez qu'on peut faire de la mécanique quantique, même dans des universités, on fait de l'agriculture et des mines. Mais voilà. Donc, lui, il fait une manip qui est déjà un peu meilleure que les précédentes parce qu'il est le premier à utiliser un laser. Dès que vous mettez un laser dans une manip, ça va mieux. Donc, du coup, moi, j'ai mis deux dans ma manip. Voilà. Bon, donc, Fry est le premier à mettre un laser. Clauser et Fry trouvent des résultats en accord avec la mécanique quantique dont la majorité des gens sont persuadés qu'il y a une erreur dans la manip de Pipkin. Personne n'a jamais pu vraiment mettre le doigt sur le problème de la manip de Pipkin. La seule chose qu'on peut dire, c'est que leur montage ne se prêtait pas à beaucoup varier les paramètres. Et ça, c'est embêtant. Tandis que dans la manip de Clauser, on pouvait tout changer dans tous les sens et c'est quand même plus raisonnable. Bon, bref. C'est ce qu'on appelle les pionniers héroïques, et il faut quand même dire que leurs expériences étaient très différentes du schéma que je vous ai montré. C'est pour ça... Alors voilà, ça c'est l'expérience de Clauser, bon, peu importe. C'est pour ça que je me suis embarqué en 1975 dans de nouvelles expériences. L'idée n'était pas de trancher entre Clauser et Pipkin, parce que ça, je savais que ça allait être fait bien avant que je sois dans la course, mais mon idée, c'était que leur schéma était assez... notablement différent de l'expérience idéale dont rêvaient les théoriciens, et que donc j'avais envie de faire une expérience qui se rapproche du schéma des théoriciens. Je suis allé demander à John Bell en 1975 ce qu'il pensait du schéma que je proposais, qui était beaucoup plus proche de ce qu'on appelle l'expérience idéale, l'expérience de pensée, et il m'a fortement encouragé, après avoir mis en garde que je risquais de ruiner ma carrière parce que tout le monde trouvait que ce sujet n'était pas intéressant, mais... À l'époque, on avait la chance d'avoir des postes jeunes. J'avais un poste de maître assistant, dont je l'ai rassuré. Je lui ai dit, du moment que je fais mon enseignement, j'ai mon salaire à la fin du mois, et après, je fais ce que je veux comme recherche. Alors, il m'a expliqué que, du coup, que ma manip, c'était vraiment très intéressant. Donc, j'ai fait plusieurs schémas. Je ne vais pas les décrire. Encore une fois, vous pouvez regarder sur le web, il y a des vidéos qui montrent tout ça, qui se rapprochent de plus en plus de l'expérience idéale, et en particulier avec la mise en évidence de la non-localité quantique, c'est-à-dire le fait que finalement, quand je vous ai parlé de jeu de pile ou face truqué, eh bien, une façon de présenter le truc consiste à dire, au moment où la mesure se passe ici, pof, il y a une communication instantanée avec l'autre côté, il se passe quelque chose. J'ai mis en évidence ça, je vais vous en parler un peu plus loin. Donc, 82, moi, je plie les bagages, j'ai apporté ma contribution, et donc, voilà, ça, c'est la manip que j'ai faite à Orsay. Bon, ça, c'est un schéma... Bon, j'aime bien celui-là, bien que j'ai eu le prix Nobel pour celui-ci, mais j'aime bien celui-là parce que toutes les expériences précédentes, les polariseurs, ils n'avaient pas les deux voies, plus 1 et moins 1. Ils avaient juste la voie plus 1. Alors là, il faut faire des acrobaties, parce que vous dites, ah oui, mais alors, si j'enlève le polariseur, Les événements que j'ai en plus, ils correspondent à moins 1, puisque quand j'ai le polariseur, j'ai plus 1, donc quand j'enlève, j'ai moins 1. Mais enfin, c'est un peu embêtant. Donc j'ai fait pour la première fois avec Philippe Grangier une expérience, c'était la thèse de Philippe Grangier, nous avons fait une expérience dans laquelle on mesure pour la première fois les résultats plus 1 et moins 1. Du coup, on viole les inégalités de Bell par 50 barres d'erreur. 50. Donc là, il n'y a pas photo. Hein. Déjà, à 3 ou 5 barres d'erreur, les physiciens considèrent que le résultat est fiable. À 50, il n'y a pas photo. Et puis ça, c'est la manip dans laquelle je change au dernier moment les orientations des polariseurs, ce qui permet d'établir la non-localité. Bon, je continue. Il y a eu une troisième génération d'expériences qui a commencé vers la fin des années 80, qui ont vraiment commencé à monter en puissance vers la fin des années 90. Elles sont basées sur de nouvelles sources de photons intriqués, dont ma source était déjà bien meilleure que celle de Clauser. Leurs sources sont infiniment meilleures que la mienne. Et il restait encore quelques points qu'on appelle des échappatoires. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. On ferme les dernières échappatoires et on démontre que l'intrication survit à grande distance. Alors, pour des physiciens, c'est quand même étonnant, parce que si je rembobine, quand Einstein, Podolsky et Rosen parlent de l'intrication, là, il y a des gens qui disent « Non, non, mais votre histoire d'intrication, ça existe à l'intérieur de l'atome. Les deux électrons de l'atome d'hélium, ils sont intriqués. Si on n'écrit pas une fonction d'onde où ils sont intriqués, on n'arrive pas à rendre compte correctement. » Mais la plupart des gens pensent que c'est une propriété du monde microscopique. Or, dans le raisonnement d'Einstein, Podolsky et Rosen, ils font l'hypothèse que ça survit à une certaine distance. Ça sort de l'atome. Donc, moi, je le fais à 12 mètres, et voilà que Gizin, à Genève, Zeilinger, à Vienne, à l'époque, il est pas... Non, il est à Innsbruck, à l'époque, il n'est pas encore à Vienne, il démontre que l'intrication survit à des centaines de mètres, Gizin à 30 km. Alors, Gizin, c'est assez marrant, ça va me permettre de faire une blague, ça va vous détendre sur les Suisses. Gizin, il utilise le réseau de Swiss Telecom la nuit. Il a trouvé un truc pour arriver à injecter des photons intriqués dans le réseau de Swiss Telecom. Alors voilà, là vous allez pouvoir rire, voilà sur les Suisses. Les Suisses, la nuit, ils dorment, c'est des gens tranquilles. Donc pendant ce temps, Gizin fait ses tests. Il fallait rire au moment où j'ai dit que les Suisses dorment au lieu d'être sur Internet. Bon. Donc Gizin, il fait la manip, il démontre à 30 km. Et puis vous avez un Chinois qui s'appelle Jian Weipan, dont on dit qu'il a des milliards sous le coude. Ça fait partie de l'effort des Chinois pour rattraper leur retard. Ils l'ont plus que rattrapé, là, parce qu'il a réussi à mettre une source de photons intriquée dans un satellite, et il démontre que l'intrication survit à 1200 km. C'est pas mal. Bon, bref. Voilà, voilà, voilà. Donc, conclusion, l'intrication est mise en évidence dans ses aspects les plus étonnants. Alors, je pars ici, c'est un transparent qui résume le fait qu'il y a des tas d'expériences qui l'ont mis en évidence dans ces aspects les plus étonnants. Et ceux qui sont un peu curieux peuvent lire un article que j'ai écrit dans leur revue de commentaires d'articles de l'American Physical Society. D'habitude, on écrit ces commentaires dans la revue Nature, mais comme je suis un peu fâché avec la revue Nature, je l'ai plutôt écrit dans cette revue. Donc, si vous voulez savoir ce que je pense de ces expériences, vous cherchez, c'est gratuit, c'est un accès libre sur Internet, etc. Donc, je continue. On va essayer de comprendre. C'était un débat épistémologique. C'est devenu un débat physique, mais quand même, le problème épistémologique, il est là derrière. Il y a un point de vue différent de Bohr et d'Einstein sur le monde, sur la façon dont on décrit le monde. Eh bien, la conclusion, c'est que la vision réaliste locale d'Einstein doit être abandonnée. Alors, qu'est-ce que c'est la vision réaliste locale d'Einstein ? Ça consiste à dire que si j'ai ici un système, une particule, mais un système qui est là, qui est bien localisé dans l'espace-temps, eh bien, dans ce volume d'espace-temps, vous avez la totalité des paramètres qui permettent de répondre à la question, si je mesure l'énergie, je vais trouver combien ? Si je mesure la polarisation, je vais mesurer combien ? En d'autres termes, l'ensemble des paramètres qui sont là me permettent de connaître les résultats de toute mesure que je pourrais faire sur le système ici. Ça, c'est l'hypothèse réaliste. Le système a une réalité physique, et cette réalité physique, elle est là, elle est locale. Et la localité, évidemment, nous dit que cette réalité physique, n'oubliez pas qu'Einstein, c'est le père de la relativité, cette réalité physique, elle ne peut pas être affectée par quelque chose qui, pour l'affecter, devrait envoyer un signal qui irait plus vite que la lumière. Il veut bien que cette réalité physique dépende de quelque chose qui est dans le passé, ça n'a pas de problème, la réalité physique qui est là dépend de ce qu'il y a dans le passé. Mais par contre, la réalité physique qui est là ne peut pas être affectée par quelque chose qui demanderait une vitesse plus grande que la lumière. Eh bien, cette vision réaliste locale du monde d'Einstein doit être abandonnée. C'est ce que nous disent les tests des inégalités de Bell, la violation des inégalités de Bell. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Eh bien, figurez-vous qu'Einstein lui-même nous a donné la réponse. Alors, vous allez être un peu surpris, quoi. Einstein ne croyait pas à ce qu'il disait. Mais si, il croyait à ce qu'il disait. Et il faisait un raisonnement par l'absurde. Il disait, si je n'avais pas raison, voilà ce que vous devriez avaler. Alors, c'est tellement énorme que vous voyez bien que j'ai raison. Voilà ce qu'était le raisonnement d'Einstein. Alors, il écrit lui-même, Einstein, hein, c'est la traduction en français d'une phrase qu'il a écrite dans ce fameux volume. Donc, il dit, si je n'avais pas raison, il faudrait, c'est un peu équivalent les deux, mais j'aime bien les deux formulations, vous allez voir pourquoi, soit abandonner l'indépendance des réalités physiques présentes dans des volumes distants. Quand il dit distant, Einstein, je parle à ceux qui comprennent la relativité, il veut dire séparé par un intervalle du genre espace. Hein, c'est clair pour lui. Donc, la réalité physique qui est ici ne peut pas être affectée par quelque chose qui est là-bas parce que ça devrait être instantané. Et d'ailleurs, il le dit explicitement dans la suite de la phrase, il dit « soit accepter que la mesure sur S1 modifie instantanément la situation réelle de S2 ». Ça, c'est ce qu'on appelle la non-localité quantique, je vais en reparler. Ça, c'est plutôt le holisme quantique. Le holisme quantique consiste à dire, eh bien, quand vous avez deux objets séparés, eh bien, finalement, vous n'avez pas le droit de les considérer comme deux objets séparés. Il faut le considérer comme un tout, holisme. Il faut le considérer comme un tout. Il y a plus de propriétés dans ce système considéré comme un tout que dans la somme de toutes les propriétés du premier et de toutes les propriétés du second. Pourquoi est-ce que c'est important, ça ? Parce que c'est ça qui est à la base des espoirs sur l'ordinateur quantique. Il y a beaucoup plus d'informations dans des objets, dans un ensemble d'objets intriqués que dans ce que vous pouvez fourrer dans chacun des objets. Ça, c'est à la base de l'information quantique. La non-localité quantique, c'est plutôt à la base de quelque chose que je vais vous raconter dans une minute qui s'appelle l'information quantique, qui s'appelle les communications quantiques, la cryptographie quantique. Donc, le holisme quantique, le fait que les propriétés de la paire sont plus que la somme des propriétés des composants, ça aboutit à l'ordinateur quantique. La non-localité quantique, ça aboutit, le fait que les deux composants de la paire semblent continuer à se parler, c'est les communications quantiques. Alors, je précise au passage, pour ceux qui se mettraient à vouloir déposer un brevet tout de suite, on peut démontrer que la non-localité quantique, aussi bizarre qu'elle soit, ne permet pas de transmettre un signal utilisable plus vite que la lumière. Un signal utilisable, c'est j'appuie sur un bouton, il y a une lampe qui s'allume là, ou une bombe qui explose, ou on passe un ordre de bourse à New York, enfin peu importe. Vous voyez, ça, c'est un signal utilisable. On ne peut pas transmettre un signal utilisable. Pourtant, tout ce que nous montre le calcul quantique, et je vais vous le montrer maintenant, c'est qu'on est bien obligé, si on insiste pour avoir une image, de fourrer une non-localité dans l'image. Alors, j'explique. Voilà l'image. Alors, ceux qui connaissent le calcul quantique vont suivre sans difficulté, les autres, accrochez-vous un peu. L'idée, je vous ai expliqué qu'on ne peut pas tirer d'image du calcul quantique quand on le fait globalement. Mais je vais faire exprès de décomposer le calcul en deux, puisque je veux séparer en deux morceaux. Je vais supposer que la mesure sur le premier photon se fait avant le second. Donc, je commence par faire une première mesure, je peux trouver plus 1, moins 1. Si mon polariseur est orienté suivant X et que j'ai trouvé plus 1, ça veut dire que le premier photon trouve polarisation X. Si j'ai trouvé moins 1, ça veut dire que le premier photon, je trouve Y. Et là, il faut que j'invoque un des postulats de la physique quantique, qui est ce qu'on appelle le postulat de réduction du paquet d'ondes, ou postulat de projection, qui me dit, juste après la mesure, il faut que je projette l'état initial, bon, c'est là que seuls les aficionados vont comprendre, il faut que je projette l'état initial sur le sous-espace propre associé au résultat. Et cette projection n'est pas la même ici ou là. Alors maintenant, tout le monde peut suivre à nouveau. juste après la mesure, on fait cette projection, et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, si on avait x, juste après la projection, on n'a plus cet état-là, on a xx. C'est-à-dire que d'un seul coup, le deuxième photon qui était n'importe quoi, paf, il est x. Mais si j'avais trouvé y, d'un seul coup, le deuxième photon est y. C'est ça la non-localité quantique. C'est le fait que jusqu'au dernier moment, vous ne savez pas si vous allez avoir plus 1 ou moins 1, mais si vous avez plus 1 d'un côté, instantanément, l'autre sait qu'il doit donner plus 1. C'est bizarre, je suis d'accord, mais c'est comme ça. Bon, donc je continue. Donc, vous avez une image dans l'espace réel qui donne le même résultat que le calcul dans un espace abstrait, mais évidemment, il y a quand même un problème, parce que si on dit que jusqu'au moment de la mesure sur du 1, on peut obtenir aussi bien plus 1 que moins 1, et que c'est immédiatement après cette mesure que l'autre, il sait ce qu'il doit faire, ça semble, il semble qu'il y ait une influence qui va plus vite que la lumière, c'est la non-localité quantique. Eh bien, pour terminer, j'ai encore une minute, 2, 5, magnifique. Donc, pour terminer, je vais vous montrer comment cette image de non-localité quantique me permet instantanément de comprendre la cryptographie quantique, alors que normalement, il faut des calculs compliqués pour démontrer la validité. Mais le simple fait que j'ai cette image de non-localité quantique, ça me donne la bonne intuition. Après, il faut faire le calcul, mais j'ai la bonne intuition. Alors, voilà. La cryptographie quantique, vous avez deux copains, Alice et Bob, ils veulent échanger des messages, et vous avez un espion qui s'appelle Eve. Alors, il s'appelle Eve non pas parce que la femme est mauvaise, je précise tout de suite pour les féministes, il s'appelle Eve parce qu'en anglais, l'espion, il s'appelle eavesdropper, c'est-à-dire le gars qui écoute aux fenêtres. Hein, qui, bon. Donc, l'espion essaye d'intercepter. Alors, il existe une méthode absolument fiable, qui a été inventée avant la physique quantique, par Shannon, qui est la suivante. Si Alice et Bob possèdent deux suites strictement identiques, aléatoires de 1 et de 0, Alice se sert de ça pour coder, Bob se sert de la même pour décoder, et personne ne peut, peut décrypter les messages. Mais il y a un problème, c'est qu'il faut que le message ne soit pas plus long que la clé. Parce que sinon, vous avez tous lu des romans d'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale, comment on a décrypté avec la machine Enigma, etc. Bref, si on utilise la même clé pour des messages plus longs que la clé, on va, les cryptographes, qui sont des mathématiciens extraordinairement forts, vont repérer des régularités, vont arriver à décrypter. Donc la question, c'est Alice et Bob, ils ont échangé un premier message, maintenant leur clé est grillée, il faut leur donner une nouvelle clé. Ils sont à la distance, il faut leur donner une série de 1 et de 0 qui sont les mêmes. Et là, vous me voyez venir, les photons intriqués vont nous donner la solution. La source de photons intriqués, alors cette source est une source moderne, elle envoie un photon vers la gauche, elle envoie un photon vers la droite. Quand Alice et Bob ont placé leur polariseur dans la même direction, si on a plus 1 d'un côté, on a plus 1 de l'autre, si on a moins 1 d'un côté, on a moins 1 de l'autre. Une fois que tout est fini, Alice et Bob communiquent par radio pour dire le premier coup, j'étais orienté comme ça, le deuxième coup, j'étais orienté comme ça, le troisième coup, j'étais orienté comme ça. Et donc, ils disent, bon, on va donc prendre le résultat numéro 3, parce qu'on était orienté pareil, le résultat numéro 8, parce qu'on était pareil, etc. Et donc, ils tirent les clés. Alors, la non-localité, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Eh bien, elle fait que pour l'espion, il n'y a rien à espionner. Circuler, il n'y a rien à voir. Puisque je vous ai expliqué que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si ça va être plus 1 ou moins 1. Et comme on ne sait pas, l'espion, il n'a rien à espionner. Donc, cette simple façon de raisonner vous explique tout le potentiel de la méthode de distribution quantique de clés par la méthode d'Arthur Eckert. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, vous vous tapez des articles complets avec tous les calculs, mais moi, ça, j'aime bien faire la physique comme ça, avec une image intuitive qui me permet de voir un truc étonnant. Après, je sais faire les calculs pour vérifier que le résultat est bon. Mais j'aime bien. Donc, pour moi, la non-localité quantique, ça me fournit une intuition extrêmement fructueuse. Donc, c'est ce que j'ai raconté ici. Donc, notre ami chinois, Jian Weipan, il a démontré qu'il peut faire de la cryptographie quantique à 1200 km. Et donc, pour terminer sur la deuxième révolution quantique, la seconde révolution quantique. Il y a deux concepts, l'intrication, ça va, vous avez compris, donc une propriété étonnante. Il y a aussi un progrès technologique extraordinaire, même expérimental. Depuis les années 1970, les physiciens ont progressivement appris à isoler, contrôler, observer des objets quantiques individuels. Jusque-là, on ne savait pas. Il y a même des physiciens tels Schrödinger qui pensaient que jamais on ne pourrait observer un objet individuel, qu'on ne pourrait observer que des probabilités collectives d'un ensemble d'objets quantiques. Bon, donc voilà, objets quantiques individuels. Le but du jeu aujourd'hui, il y a les objets naturels, les atomes, les ions, les photons, etc. Le but du jeu, c'est d'arriver à faire des artefacts par les méthodes de la matière condensée, supraconductivité, etc. Tout ça pour les combiner entre eux pour faire un ordinateur quantique. Donc, les technologies quantiques, eh bien, vous avez les communications quantiques avec la cryptographie quantique et la téléportation quantique. Alors, la téléportation quantique, c'est pas je téléporte Jean d'ici à là. Hein. La téléportation quantique, c'est j'ai un état quantique ici, je ne peux pas prendre connaissance de cet état quantique. Les principes de base de la physique quantique montrent que c'est pas possible de connaître tout l'état, et pourtant, je peux arriver à le coller sur un objet qui est là-bas. Et vous voyez que si on a des ordinateurs quantiques, être capable de faire circuler l'information quantique directement d'ici à là, sans passer par un avatar classique, ça a un avantage énorme. Donc ça, ça marche. Donc la cryptographie quantique marche, la téléportation quantique marche à peu près. L'ordinateur quantique, ça c'est un poème. Les ordinateurs quantiques imparfaits commencent à marcher et on n'est pas loin du point où on saura si vraiment ils ont un avantage formidable ou pas. Si on n'a pas ça dans les années qui viennent, arrêtez d'investir dans les ordinateurs quantiques. Mais par contre, si on a ça dans les années qui viennent et que vous avez déjà investi, vous allez gagner le gros lot. Donc, à vous de savoir. Donc, les ordinateurs quantiques imparfaits, on va savoir dans les années qui viennent. Les ordinateurs parfaits, je crois que je ne le verrai pas de mon vivant parce qu'il y a tellement d'obstacles à parcourir. Mais les imparfaits sont déjà normalement capables de faire mieux que les ordinateurs classiques. La métrologie quantique, ça marche. J'aime beaucoup ce petit appareil qui a été fabriqué par des anciens étudiants à moi. Ça mesure la gravité avec des atomes ultra-froids, donc par interférométrie atomique. Eh bien, cet appareil, il est aujourd'hui suffisamment fiable pour être déposé sur les flancs de l'Etna depuis des mois. Il mesure les petites variations de gravité là-dessus avec l'espoir qu'on va être capable de détecter à l'avance les éruptions volcaniques qui se préparent. C'est quand même chouette comme application. Puis ce qui est chouette, c'est de prendre un truc comme ça avec des atomes froids, des lasers, etc. Vous le mettez dans une... Enfin, vous passez 5 ans avec des ingénieurs très forts pour un. Après, vous le mettez sur les flancs de l'Etna et ça marche, jour et nuit. Pas mal. Bon, donc, c'est une révolution conceptuelle, il n'y a aucun doute. C'est aussi une révolution scientifique parce qu'il a fallu que les scientifiques avalent ce concept d'intrication. Est-ce que ça en aura un impact majeur sur la société ? Comment se manifestera l'avantage quantique ? Personne ne peut répondre avec certitude. Et ici, j'ajoute quelque chose que j'aurais dû déjà ajouter sur le transparent. On peut donner deux définitions, deux acceptions de l'avantage quantique. Le premier, à quoi tout le monde pense, c'est « je vais avoir un ordinateur beaucoup plus puissant qui peut faire des calculs que les ordinateurs classiques ne peuvent pas faire ». Le deuxième, c'est « je vais pouvoir, avec mon ordinateur quantique, faire des calculs que l'ordinateur classique sait faire en dépensant des mégawatts et mon ordinateur quantique, lui, ne dépensera que des kilowatts ». Donc, autre point de vue, c'est plus énergétique. Soit c'est plus puissant, enfin, ça va plus vite, soit ça dépense moins d'énergie. Bon, ce n'est pas encore prouvé, mais à mon avis, on n'est pas loin d'avoir la bonne réponse, savoir si oui ou non. Donc, je dis, beaucoup de gens y pensent, vous avez la Commission européenne, vous avez le plan quantique français, tout le monde a son plan quantique, les Allemands, les Américains, les Chinois, tout le monde a son plan quantique. Vous avez même les grandes boîtes qui ont des poches très profondes, comme Microsoft, Google, IBM, Amazon, etc., qui investissent là-dedans. Vous avez une flopée de start-up, et il y en a beaucoup en France. Il faut dire que le système français favorise l'émergence des start-up. Il y a des aides, on dit que les gens du CNRS peuvent travailler un jour sur cinq dans une start-up ils ont le droit de le faire, etc. Donc il y a une flopée de start-up qui se sont développées en France. Il y en a même quelques-unes où je suis membre fondateur parce que c'est des anciens collaborateurs à moi qui l'ont fondée et ils sont venus me demander de les encourager. Demander d'encourager, ça veut dire signer un chèque, hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc je les ai encouragés, donc je fais partie des fondateurs de certaines, voilà. Bon, bref, voilà, vous avez toute une flopée. Donc ce sont des perspectives fascinantes. Et je vais terminer très vite avec les remerciements. Pendant que les dernières années de ma thèse, j'ai eu deux étudiants, on dirait aujourd'hui de master, des étudiants de troisième cycle qui sont venus m'aider. Vous voyez, ils avaient des drôles de têtes à l'époque. Alors aujourd'hui, ils ont des têtes plus normales. Ça, c'est Jean Dalibard. Et ça, c'est Philippe Grangier, dont Jean Dalibard, tout le monde a entendu parler, prof au Collège de France, médaille d'or du CNRS. Philippe Grangier, une des stars mondiales de l'optique quantique, médaille d'argent du CNRS. J'ai eu deux ingénieurs formidables pour faire ces manips. Et puis quand même, dans les remerciements, il y a le prof de l'Institut d'optique qui m'a tendu le papier de Bell. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Il m'a tendu une copie du papier de Bell en me disant « Regarde ça, il y a peut-être un truc intéressant pour toi ». C'est lui qui a changé ma vie. J'ai appris la physique quantique dans le livre de Claude Coentanougi, Bernard Dieu et Franck Lalloé, donc un grand coup de chapeau parce que j'ai appris vraiment. Je suis un autodidacte qui a appris là-dedans. Je suis aussi quelqu'un qui a appris l'optique quantique dans les cours de Claude Coentanougi au Collège de France. Il va sans dire que je suis pénible et que donc je dois remercier beaucoup ma femme pour m'avoir supporté dans tous les sens du terme. J'ai pas fini. Je trouve marrant de vous dire un mot de... ce qui s'est passé à l'Académie des sciences le 4 octobre. J'étais en réunion à l'Académie... Tu y étais, Antoine, ou pas ? J'étais... Oui, c'est toi qui présidais la commission, en plus, non ? Enfin, bref, j'étais dans une commission et je reçois un SMS. Il était... C'est marqué 11h25, hein, c'est des photocopies de mon écran. Je reçois un SMS de l'assistante de direction de l'Institut d'optique qui dit « Il y a quelqu'un à Stockholm, ils veulent absolument vous parler tout de suite et ils ne veulent pas dire pourquoi. Est-ce que vous m'autorisez à donner votre numéro de portable ?» Donc je lui réponds « Oui, bien sûr, il est 11h25. » Donc je sors, je reviens dans la salle, les copains me disent « Alors, je dis « J'ai pas le droit de vous dire, à Stockholm, ils m'ont dit que j'ai pas le droit de vous dire. » Donc tout le monde se met sur son portable, sur son ordinateur, et à 11h39 exactement, le résultat est annoncé sur le web. Donc vous voyez, c'est pas des blagues, hein. Je l'ai appris 15 minutes avant. Et là, vous voyez, comme par hasard, j'étais à côté de Serge Haroche, de Jean Dalibard, qui instabile, voilà. Bon, c'était une belle histoire. Donc, deux mois plus tard... Le 10 décembre, qui est l'anniversaire de la mort de Nobel, j'étais donc à Stockholm en train de recevoir le machin, en queue de pie. Et puis, voilà, j'avais aussi invité les deux jeunes étudiants qui avaient des drôles de tête 40 ans avant, Jean Dalibard et Philippe Grangier. Et tous les trois, on a joui intensément de ce moment. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe maintenant ?
Il pose des petites questions.
C'est pas toi qui poses les questions, moi.
Comment ?
C'est pas toi qui poses les questions.
Non, ça sera la salle.
D'accord. Allez, alors, soyez pas timide. Voilà.
Monsieur, voilà.
Ouais. À mon avis, c'est pas naïf, mais enfin, ça fait.
Non, la première question qui sera pas la plus intelligente, mais qu'on a dû vous poser des milliers de fois. Le Nobel, donc, bien sûr, c'est le Graal, c'est une consécration. Est-ce que c'est vraiment une surprise pour vous ? Est-ce que ça a été un choc ? Est-ce que ça a changé votre vie par rapport aux autres, par rapport à votre...
Alors, il y a plusieurs questions. Oui. Est-ce que c'est une surprise le 4 octobre 2022 ? Oui. Est-ce qu'on m'a dit depuis longtemps que j'avais une possibilité de l'avoir ? Oui. Donc, je suis préparé, mais j'ai décidé depuis longtemps, parce qu'il y a longtemps qu'on m'a dit « tu peux avoir le Nobel, tu vas l'avoir ». Il y a des fois, mais cette année, tu vas l'avoir. Puis hop, ça n'arrive pas. Donc j'avais décidé depuis longtemps de ne pas penser que j'allais l'avoir cette année-là. Et c'est pour ça que j'étais tranquillement dans mon réunion à l'Académie des sciences. Et franchement, je ne l'attendais pas particulièrement. Donc c'est une surprise au dernier moment. Et d'un autre côté, j'étais préparé à l'idée que ça pouvait arriver. C'était quoi l'autre question ? Est-ce que ça change la vie ? Oui, parce qu'on est submergé de demandes. Par exemple, celle-ci, là. Et donc, ils peuvent témoigner que, en fait, j'ai mis un rideau de fer qui m'a été payé par l'université Paris-Saclay, que je remercie beaucoup, qui est une assistante personnelle. Donc, quand ils ont voulu m'inviter, ils ont reçu un message automatique disant « Adressez-vous à mon assistante ». Après, ils ont réussi à négocier avec elle. Alors, tous les jours, je passe une heure à deux heures avec elle, deux heures tous les deux jours, pour gérer l'ensemble des demandes qu'elle a reçues pendant les 48 heures qui précèdent. Et une fois qu'on a géré ça, elle est à plein temps pendant deux jours pour répondre poliment aux gens, professeur Aspect est trop occupé, désolé, gna gna. Puis une fois de temps en temps, elle dit oui, et là, il faut arriver à trouver un endroit à le mettre dans l'agenda. C'est comme ça qu'on a fait avec vous.
Voilà, donc, mais d'abord, je tiens à préciser qu'Alain, ce n'est pas la première fois que tu viens,
oui.
Et bien avant le Nobel, tu fus notre invité.
Absolument, voilà. Et je vous en remercie.
Et donc, premier point, et donc oui, nous sommes honorés par ailleurs.
Non, mais il faut...
Après le Nobel, tu as voulu nous gratifier ta présence.
Mais tu sais, les gens qui m'ont invité avant le Nobel, quelque part, ils sont chers à mon cœur. Donc, voilà. Je leur donne, quand je discute avec l'assistante, je leur donne une priorité.
Voilà. On en est heureux, mais je pense que tous les autres peuvent en être heureux aussi, puisque vous avez ce privilège ce soir. Bon, allez, après ça, la question suivante. Allez, la jeunesse, parfait.
Ah.
Allez, non, c'est pas la...
Bonjour, merci pour cette conférence. Je me demandais, en prouvant l'intrication et la non-localité, vous avez un peu démontré l'idée d'imprévisibilité et l'idée de hasard comparé à ce que l'équipe d'Einstein pouvait dire. On a vu les implications physiques. Quelles ont été les implications un peu philosophiques par la suite, après avoir prouvé qu'il y avait un hasard à l'échelle quantique? Est-ce que ça a été mal perçu? Est-ce que ça a donné naissance à des courants?
Alors, je vais vous décevoir, mais il fut une époque où je pensais que la philosophie m'aiderait à surmonter les problèmes conceptuels ou à les éclaircir. La réponse, pour moi... Non, dont je ne vais pas m'engager sur le terrain philosophique parce que je n'ai pas trouvé le secours de la philosophie. En revanche, le fait que le hasard quantique soit validé, effectivement, comme vous le dites, par ces expériences, a des conséquences physiques très importantes et en particulier dans les technologies. Je vais vous donner un exemple. Il y existe aujourd'hui des générateurs de nombres aléatoires quantiques basé sur le fait que quand un photon arrive sur une lame semi-réfléchissante, on ne parle pas de polarisation, là. Un photon arrive sur une lame semi-réfléchissante, il a 50% de chance de sortir, 50% de chance d'être réfléchi. Ceci peut donc me faire un générateur de nombres aléatoires. S'il sort par là, c'est 1, s'il sort par là, c'est 0. Donc un générateur de nombres aléatoires. Ce générateur de nombres aléatoires est parfait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Réfléchissez. Qu'est-ce qu'est un générateur de nombres aléatoires parfait? C'est une boîte telle que même l'ingénieur qui a construit la boîte ne peut pas prédire ce qui va sortir. Quand un photon arrive sur une lame semi-réfléchissante, on ne sait pas de quel côté il va sortir. Pourquoi? Parce que si on le savait, il y aurait une variable cachée. Et la violation des inégalités de Bell montre qu'il n'y a pas de variable cachée. Et donc, en fait, aujourd'hui, les gens qui sont extrêmement sérieux et rigoureux avec ces questions, disent qu'en fait, le meilleur générateur de nombres aléatoires, c'est un générateur d'un nombre aléatoire dans lequel on émet deux photons, on regarde le résultat ici, c'est 1 ou 0, et de temps en temps, on fait un petit test des inégalités de Bell pour vérifier que les inégalités de Bell sont toujours violées, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu bricoler ce système ou je ne sais pas quoi. Donc, de temps en temps, on vérifie que les inégalités de Bell sont violées. On sait donc qu'il n'y a pas de variable cachée. Et donc, le générateur de nombres aléatoires est parfaitement fiable. Alors, vous êtes déçus, mais écoutez, il n'y a pas besoin de la physique quantique pour imaginer que l'être humain a une forme de libre arbitre, parce qu'il n'y a pas besoin du hasard quantique pour savoir qu'un système complexe, même classique, à partir d'un certain degré de complexité, est de toute façon aléatoire. Donc je vois bien ce que vous avez derrière la tête, mais un, je suis pas compétent pour répondre à la question, mais deux, je ne crois pas que le fait qu'il existe un hasard quantique ajoute quoi que ce soit au débat philosophique sur le libre arbitre et ces choses-là. Mais ça, c'est un point de vue personnel. Je déborde de mon cadre de compétences.
Oui. bien vous. Ne voyons pas d'autres mains levées. À vous.
Bonjour. Je voulais vous demander, parce que j'avais déjà lu un livre sur la mécanique quantique, je crois qu'il y a plusieurs niveaux d'intrication. Niveaux d'intrication de particules. Est-ce que ça change quelque chose au niveau de la transmission
Alors, je pense que ce à quoi vous faites référence, c'est quand on a plusieurs particules. Parce que sur deux particules, le niveau d'intrication, on sait parfaitement le définir. Ce que j'ai décrit ici, l'état que j'ai décrit, c'est un état avec intrication maximale. Après, il peut y avoir un petit peu de décohérence. Donc, alors là, je vais être un peu technique. Ça se représente par une matrice densité et il y a un certain degré de mélange statistique dedans. Donc là, on sait parfaitement décrire le degré d'intrication. Par contre, le domaine est toujours ouvert parce que si on a 3, 4, 5, 6 particules, etc., on ne sait pas bien définir le niveau d'intrication. Donc ça fait partie des recherches en cours. Il faut savoir que les recherches sur l'ordinateur quantique, elles sont d'une part matérielles. On essaye de construire un système ayant le plus grand nombre possible de bits quantiques intriqués entre eux avec le moins de décohérence. Ah ben non, vous le piquez pas aux autres. Non, mais c'est pas juste. D'abord, je vous signale que ça vaut 10 euros, je vous signale. C'est 10, c'est Jean qui me l'a donné, celui-là.
Non, c'est moi qui viens de le mettre.
Ah, c'est vous qui l'avez mis.
Je ne veux pas vous interrompre.
C'est-à-dire, c'est pas juste, parce que les autres, là, il y en a peut-être qui en veulent. Voilà, enfin, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que tu en penses. C'est lui qui va les distribuer, tiens. Voilà. Non, pas, vous interrompez pas la réponse à la question. Là, ça va pas. Donc, on sait. Donc, la construction des ordinateurs quantiques est un gros effort matériel, mais en même temps, vous avez d'énormes efforts, les théoriciens, les informaticiens quantiques, les mathématiciens, etc., pour mieux comprendre tout le potentiel de l'intrication, en prenant en compte le fait qu'il y a quand même un peu de décohérence et des imperfections, etc. Donc je pense que c'est à ça que vous faites allusion. Et oui, il y a des niveaux plus ou moins élevés d'intrication, et on ne sait même pas bien le définir quand on a un nombre suffisamment grand de particules.
Alors, Patrick.
Tiens, on va prendre un générateur de nombres aléatoires pour savoir à qui on remet ça. Voilà.
Bonsoir, Monsieur Aspect.
Ah oui, bonjour.
J'ai été impressionné par les grands noms de la physique que vous avez mentionnés au début de votre exposé, ceux qui ont fondé la mécanique quantique, la physique relativiste. Avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui, à notre époque, on a encore une telle inflorescence de théories physiques qui permettront de décrire encore mieux le monde demain, on s'en rendra compte, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, lorsque les expérimentateurs auront prouvé la validité de leur théorie. Est-ce qu'on a le même bouillonnement qu'au début du XXe siècle, ou est-ce que c'était un grand moment, fin 19e, début 20e, et voilà, c'est passé en tous les cas à ce jour?
Alors, difficile à dire, mais si on regarde un petit peu l'histoire, des gens du calibre de Galilée, Newton, allez, on va dire Maxwell. Moi, je pense que Maxwell fait partie des très, très grands parce qu'il y a d'une part l'électromagnétisme, d'autre part la physique statistique. Et puis Bohr et Einstein, je crois que des gens de ce calibre-là, on n'en a pas souvent. Donc rien ne dit qu'il faut en avoir tous les 50 ans. Parce que quand vous regardez ce que je viens de dire, ce n'est pas tous les 50 ans. D'accord ? Donc, je ne sais pas. Il y a des gens extrêmement forts aujourd'hui. Mais est-ce que les théories qu'ils prêchent aujourd'hui vont se révéler la clé de la résolution d'un certain nombre de problèmes ou pas? Je crois qu'on ne peut pas le prédire. Mais il n'y a aucun doute qu'il y a des gens extrêmement forts aujourd'hui comme il y en avait avant. Mais avec le recul, il n'y a aucun doute que... Parce que, vous voyez, même quelqu'un comme Dirac... Dirac est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Il a d'extraordinaire qu'il met en forme d'une façon brillante, mais quand même, il met en forme quoi? Les idées qui sont nées de Einstein et Bohr. Parce qu'après, on peut dire, alors, Schrödinger, Heisenberg, Dirac. Voilà un trio extraordinaire. Mais je ne pense pas qu'il soit au même niveau que Newton, Bohr et Einstein. Monsieur, C'est un peu du feeling, hein, quand même. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui veulent me contredire. Parce qu'il y a sûrement...
Patrick, je te vois qui...
Non, je ne mettrai pas Bohr, mais bon.
Hein?
Il me semble que Bohr n'est pas dans la liste, mais c'est un...
Ah ben, avant Bohr, on ne comprend rien à la structure de la matière, quand même.
Je ne crois pas qu'on comprenne avec Bohr non plus, mais...
Bon, enfin, ben, alors, voilà, ça va nous faire un débat au dîner. Voilà.
C'est pas le propos. Bon, allez, à vous, monsieur.
Oui, un grand merci. Napoléon disait que l'histoire, c'est la géographie. Je crois comprendre que Einstein avait un concept de localisation, si je comprends ça. Est-ce que vous pensez que le monde localisé et le monde localisé sont vraiment deux mondes complètement différents, ou y a-t-il des passerelles entre ces deux mondes ?
Je crois que la passerelle, elle est différente. Elle est entre le monde classique et le monde quantique, ou entre le monde quantique et le monde classique. On sait... Par exemple, il y a les travaux de Serge Haroche, hein, mais bon, il y a bien d'autres expériences. On sait que les systèmes quantiques purs, dès que vous mettez des perturbations dessus, ils sont de moins en moins purs et ils se mettent à avoir un comportement de plus en plus classique. Alors une fois qu'on a dit ça, on dit « bon, ben, alors c'est très simple, on comprend que finalement le monde qui est devant nous est un monde classique parce que forcément il y a des perturbations partout et donc voilà pourquoi le monde que nous voyons est classique ». Seulement, on se trouve quand même avec un problème majeur, qui est un problème auquel personne ne peut répondre aujourd'hui, c'est où est la limite entre le monde quantique et le monde classique ? Qu'est-ce que je veux dire ? Tout à l'heure, j'ai répondu à la demoiselle ou à la dame là-bas, j'ai répondu que deux particules, ça va, on comprend bien, 3, 4, 5, 6 intriquées, ça devient compliqué. Ce qu'on voit, c'est que plus on essaie d'en intriquer, plus c'est difficile, c'est-à-dire plus la décohérence, plus les perturbations vont avoir tendance à rendre le système classique. Oui, mais après tout, les perturbations, on peut mettre un écran autour. C'est ce que font les gens qui essaient de construire des ordinateurs quantiques. Pascal, aujourd'hui, est capable d'intriquer 300 bits quantiques. Ils essayent d'en faire 500. On pense qu'ils en auront bientôt 1000. Et donc la question se pose... Est-ce que pour faire de plus en plus d'objets quantiques intriqués, c'est-à-dire rester du côté quantique du monde, est-ce que c'est juste une question technologique, c'est-à-dire je mets des écrans de plus en plus efficaces pour empêcher les perturbations, je refroidis les basses températures, etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, on va tomber sur une limite fondamentale qu'on ne connaît pas ? Mais si on la découvrait, ce serait une découverte formidable. Donc, votre question m'amène, je ne suis pas sûr que j'ai répondu exactement à votre question, mais votre question m'a amené à signaler ce point, qui est quand même un point tout à fait passionnant, qui est, est-ce que les gens qui essaient de construire les ordinateurs quantiques vont se heurter à une limite fondamentale, ou est-ce que c'est juste un problème technologique ? Je vous assure que j'aimerais bien connaître la réponse à cette question.
Moi aussi, et je voudrais te poser une dernière question.
Vas-y.
Qui est que... À la suite de beaucoup d'autres prix Nobel, tu as tenté de faire comprendre aux politiques qui nous gouvernent que la recherche, ça ne se planifie pas les découvertes fondamentales, conceptuelles, plus technologiques. Et je suis surpris par apparemment le manque d'impact, finalement, de tout vous qui nous représentez au meilleur niveau. Alors, est-ce que c'est une illusion ? Ou en revanche, il y a une certaine frustration que tu partages ?
Non, il y a ni illusion, ni frustration. Allez, on va couper les micros. Je crois que dans le monde entier, les physiciens ont réussi à convaincre les politiques qu'il faut financer la recherche quantique parce que ça pourrait donner des applications. Et au passage, ça nous fait faire quand même de la recherche fondamentale. Je crois qu'il est vrai qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de mal à convaincre les... Bon, il y a le CERN, mais le CERN, ça a été... Et encore, ne faisons pas d'illusions, le CERN et tous ses efforts sur la physique après la Seconde Guerre mondiale, c'est parce que les physiciens avaient donné aux politiques la bombe atomique, la bomba et la bombache. Donc du coup, ils ont dit, allez, on peut financer les physiciens parce que c'est bien. Et c'est vrai qu'après, la physique a donné le transistor, le laser, etc. Et donc, je pense que, soyons honnêtes, nous utilisons tous un peu le système en expliquant aux politiques que ce qu'on fait va servir. Et de facto, ça sert. Je vais te donner un exemple.
Ah, mais oui, ça sert.
Quand, en 1985, Claude Cohen-Tanoudji m'a demandé de venir le rejoindre parce qu'il voulait engager une opération de recherche sur le refroidissement d'atomes par laser. On est allé s'adresser à la DGA, je ne sais pas comment ça s'appelait, DRME ou DRET ou un truc comme ça. Et on leur a expliqué que peut-être un jour, avec ça, ils feraient des gyros à atomes froids qu'ils pourraient mettre dans les sous-marins en plongée pour que les sous-marins en plongée puissent naviguer longtemps. Eh bien, aujourd'hui, ça existe. Nous, on sait, on a fait de la recherche fondamentale sur les atomes refroidis par laser. Cohen-Tanoudji a eu son prix Nobel, etc. Donc, je reconnais que nous ne sommes pas purs. Nous utilisons le fait que les politiques, à juste titre, pensent que la physique finit toujours tôt ou tard par leur donner quelque chose d'utile. Alors, il y a un point qui est essentiel, que je passe mon temps à le répéter, c'est que ça se compte en décennies. C'est-à-dire entre les découvertes fondamentales et les applications, c'est des décennies. Mécanique quantique, Einstein, dualité onde de particules, Einstein 1905, De Broglie 1923, Schrödinger 1925, transistor 1947, circuit intégré, je ne sais pas quoi, 70, un truc comme ça, laser 1960. Bon, intrication, Einstein-Rosen 35, Bell 64. On commence à peine à voir les applications de l'intrication. Donc ça se compte en décennies. Alors ça, je ne le cache jamais aux politiques. Je leur dis, si vous attendez un résultat demain matin, ce n'est pas la peine.
Je te demande une dernière question. Cette maison est connue pour ses apports à la cosmologie.
Absolument.
Est-ce que tu crois vraiment que ça va se compter en décennies, les implications des recherches que nous faisons ici sur l'univers primordial, la gravité quantique? Moi, je le crois. Mais peut-être pas à très court terme.
Moi, je le crois aussi, mais pour prendre un domaine que je connais mieux, qui, tu vas me dire, est plus à ras de terre, la recherche des ondes gravitationnelles, l'interféromètre, les grands interféromètres qui ont détecté les ondes gravitationnelles, il se trouve que je faisais partie du comité qui a convaincu, je ne sais plus si c'était Curien, enfin, il y avait un ministre à l'époque.
Curien, c'est...
Non, mais peu importe. On a quand même... tu sais, tu dis que c'est facile, je te signale les gens des accélérateurs, ne voulaient pas qu'on lance le programme. Moi, je fais partie des gens qui, à la fin des années 80, ont dit, c'est complètement dingue comme technologie. Tiens, ça va me permettre de donner un de mes crédos. Deux, je ne connais aucune loi fondamentale de la physique qui dit que ça ne va pas marcher. Donc, allons-y. Il a fallu 30 ans. Donc voilà, cette recherche des ondes gravitationnelles a stimulé la construction des grands interféromètres. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, la construction des grands interféromètres a obligé à développer des technologies optiques qui sont maintenant utilisées dans tout, dans les téléphones portables, dans absolument tout.
Je crois qu'on va s'arrêter
on
là.
On est d'accord. On est d'accord.
Oui, mais je te prenais. Je profitais de ta présence pour que tout le monde entende un discours avec lequel je suis assez synchro.
Mais moi, je ne dis pas qu'il faut faire que de la science pure et pas se préoccuper d'applications. Les applications, c'est important. Il faut juste dire aux politiques qu'il s'écoule des décennies entre les recherches fondamentales et les applications.
Bon, et nous allons peut-être conclure en applaudissant notre orateur.
Merci. Alors, je suis très intéressé. Qui est-ce qui veut un livre ? Et levez les doigts. Allez, hop, on repère les premiers. Allez, les premiers viennent. Allez, oui.
Je suis pas mal placé là pour
Tiens.
Attraper un.
Merci. Bon, je te le dédicacerai après.